Moi, je vais évidemment... On entend là ? Oui ? D'accord, ok. Très bien. On fait vraiment un pas de côté, parce que moi, je vais vous parler uniquement de ma petite expérience. Et donc, non, j'étais dans un lieu où, effectivement, une famille recomposée quitte Paris à la fin des années 70 pour aller dans les Cévennes. Pas vraiment élever des chèvres, mais faire des stages photos, du tissage, etc. Enfin, vraiment le tableau qu'on connaît. Et donc, dans un tout petit hameau qui était au fond d'une impasse et qui était habité par notre voisine qui s'appelait Sylvette, qui appelait ses chèvres dans la montagne à la voix, comme ça. Et nous, qui étions donc des Parisiens, pas forcément super bien accueillis, comme ça pouvait l'être à ce moment-là, après toute cette... cette avalanche de Parisiens qui est arrivée dans le coin. Donc, je suis arrivée, moi, à 10 ans. J'ai passé mon CM2 dans l'école communale du petit village qui était à 6 km, mais il fallait quand même un quart d'heure en deux chevaux pour y arriver. Et dans une classe unique où il y avait de la maternelle au CM2, 16 élèves. Voilà. Bon. Ensuite, j'ai fait mes études à sixième terminale au Vigan. Voilà. Et puis, j'étais plutôt bonne élève, donc il n'y avait pas vraiment de... J'ai répondu un peu à une injonction quand même parentale et essentiellement paternelle de faire de bonnes études de lettres, en l'occurrence. Et donc, j'ai fait une hypocagne et j'ai fait une cagne. En arrivant à Neuilly, donc là, il y a une transplantation qui était quand même assez brutale parce que je ne comprenais mais absolument rien. Il n'y avait évidemment pas Internet à l'époque, il n'y avait rien du tout. Donc, c'était un changement culturel qui était vraiment énorme. Et j'avais absolument aucun code, je ne comprenais rien du tout. Je ne connaissais déjà pas les gens dont on parlait, les intellectuels que mes petits camarades de classe en général connaissaient. Moi, je ne les connaissais absolument pas. Bref, ça a été quand même très déroutant et en même temps complètement exaltant, parce que j'ai adoré ces deux années d'apprentissage et d'ouverture vraiment à des savoirs que j'ignorais bien sûr totalement. Donc là, après, contre toute attente, j'étais admissible, j'ai échoué à l'oral.
Explique-moi j'ai fait. Dans quelles conditions tu avais échoué à l'oral
Oui. Ça montre aussi un... Oui, c'est vrai que c'était... Et là aussi, ça ne pourrait plus du tout arriver aujourd'hui. Donc, je suis admissible en philosophie. Et mon prof de philo, qui était un heideggerien convaincu, n'était pas là entre l'écrit et l'oral. Il était en Allemagne pour fêter je ne sais plus quelle commémoration autour de Heidegger. Mais et je ne savais absolument pas... Non, il n'y avait pas eu d'élève admissible en philo au lycée Pasteur. Et lui, il s'en fichait complètement. C'était vraiment pas son intérêt. On était trois élèves en philo. On fumait dans la classe. Enfin bon, c'était vraiment une autre époque. Et donc, je suis arrivée à l'oral sans savoir en quoi consistaient les épreuves à passer. J'aurais probablement échoué quand même. Mais enfin là, de toute façon, je risquais certainement pas de réussir. Et donc, je refais une deuxième cagne, cette fois-ci au lycée Henri IV, où l'ambiance était totalement autre. Je réussis cette deuxième cagne. Et puis là, ivresse totale de la réussite, parce que j'ai été une joie absolument incroyable. J'avais l'impression que tout s'ouvrait devant moi et que j'allais que tout m'était possible. Sauf que j'avais absolument pas... pas du tout envie d'enseigner la philosophie, qui est quand même ce à quoi vous destine normalement l'entrée à Normale Sup. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Donc j'ai passé une année de grand bonheur où j'ai lu la recherche, j'ai fait de la sculpture et j'ai passé ma licence de philo. Bon, et puis en même temps, parce qu'en fait, une fois qu'on intègre, donc il y avait l'indépendance financière qui n'avait pas été le secondaire dans ma motivation, je dois le dire, parce que ça me permettait de pouvoir me prendre un studio et vivre toute seule. Donc c'était absolument génial.
Parce que pour les étudiants qui sont admis à Normale Sup,
il y a une bourse. On est fonctionnaire stagiaire, donc on est payé pendant la durée de nos études, c'est-à-dire 4 ans, et on doit 10 ans à l'État à partir de l'entrée à Normale Sup. Donc 10 ans, soit comme prof, soit comme contractuel, ce que moi j'ai fait finalement au bout du compte. Donc au terme de cette année un peu de où j'en ai vraiment énormément profité, où c'était vraiment très très bien, mais je me suis dit mais maintenant qu'est-ce que je fais, parce que nous voulons pas enseigner. J'avais ce sésame, mais j'avais aucun métier, je savais rien faire en fait. Donc là j'ai suivi d'autres études au CELSA en l'occurrence, où j'ai fait une école de communication. Et j'ai suivi ensuite une carrière plutôt dans la culture et dans les musées, au musée d'Orsay, chez Tachène, chez différents éditeurs, dans d'autres musées.
Et qu'est-ce que tu as pensé de l'organisation des musées, justement dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, de la démocratisation un peu des savoirs, de l'accès à tous à la culture
Alors là, moi, c'était vraiment à un moment où c'était dans les années, à la fin des années 80, où il y avait vraiment quand même beaucoup de moyens qui étaient mis dans les musées. Il y avait beaucoup de personnel, il y avait énormément de choses. Moi, j'étais au musée d'Orsay et c'est vrai que il y avait tout un tas d'activités pour les scolaires, pour les publics handicapés aussi, dont je m'occupais moi particulièrement. Donc c'était à la fois très intéressant, mais en étant à l'intérieur, c'était en même temps extrêmement hiérarchisé, extrêmement fermé comme milieu. Il y avait pas mal de personnel et pas tellement autant de travail que de personnel. Donc chacun défendait un petit peu son précaré. C'était un peu compliqué de faire d'avoir des initiatives. Il y avait quand même des clans parce que le milieu des conservateurs, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, hein, est quand même pas ce qu'il y a de plus ouvert au monde. Hein, et...
Eux, ils ont de la culture, mais ils n'ont pas d'ouverture.
Exactement. Non, mais c'est vrai.
C'est rien compris, moi, aujourd'hui. Ils s'appellent
conservateurs.
C'est vrai qu'il faut se fier aux mots parfois, effectivement.
Des conservatrices aussi.
Oui, c'est. Et donc voilà, et ce qui fait que ça ne m'a pas donné envie d'y rester non plus extrêmement longtemps. Et donc je suis partie dans le privé, mais au terme de mes 10 années de contrat, parce qu'il était évidemment. Pas question de. J'aurais pu partir avant, hein, mais ça, j'aurais trouvé ça quand même particulièrement ingrat.
Mais tu pars avant, au départ, tu rembourses tes études,
oui, dans les faits, personne ne le fait. Hein. Non, c'est. Enfin, je crois pas. C'est vraiment. Ça arrive quand même assez régulièrement. Mais non, moi, j'étais partie au départ pour rester vraiment dans le service public toute ma carrière. J'étais vraiment. Et puis, bon, non, ça m'a lassée, ça m'a ennuyée. Et puis, voilà, j'ai. Les choses se sont faites par bifurcations successives, mais sans plan préconçu, en fait, un peu en suivant les choses. Et jusqu'à aujourd'hui, où j'ai totalement changé d'orientation et où maintenant je suis ma pratique artistique.
Juste avant que tu t'émanes, ouais. Parce que tu as commencé à Orsay, et l'une de tes dernières activités, parce qu'on ne va pas dire que non plus que le privé c'est le tout extraordinaire, raconte-nous un peu ce qui se passait, parce que ça c'est un peu drôle, c'est de l'anecdote, mais c'est aussi dans le musée des lettres et des manuscrits, parce que c'était quoi ce musée?
Alors,
ça c'est drôle, vous allez apprendre des choses sur un dysfonctionnement incroyable aussi du privé.
Oui. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Oui, bon, ce qui n'est pas encore réglé sur le plan judiciaire, mais effectivement, un de mes derniers postes, en quelque sorte, bon, enfin, j'étais en freelance, parce que je me suis rapidement installée en freelance, et donc je suis devenue directrice de la communication du Musée des Lettres et Manuscrits, qui est un musée au boulevard Saint-Germain, dont le fondateur et président avait également créé une société qui s'appelle Aristophile, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui était, on l'appelle, mais bon, c'est pas réglé, mais on l'appelle le Madoff des lettres, puisqu'il avait monté un système qu'on accusait d'être un système un peu similaire à la pyramide de Ponzi, puisqu'il achetait des manuscrits qu'il revendait en indivision à des épargnants qui achetaient donc des parts du manifeste du surréalisme. Il avait des trésors absolument incroyables et un musée donc à boulevard Saint-Germain qui proposait des expositions magnifiques avec beaucoup de moyens.
Oui,
donc on a fait
il y avait une histoire de rémunération.
Bah, oui, c'est-à-dire
il promettait aux épargnants, ouais, une rémunération Incroyable.
Alors, il y avait effectivement une plus-value, mais c'était tout ça était quand même extrêmement subtil. C'est pour ça que c'est pas réglé non plus sur le plan juridique. Mais effectivement, les gens qui rentraient pour 5 ans dans le fonds, en achetant donc une partie de telle ou telle indivision. Et en repartant au bout de 5 ans, ils avaient une plus-value de 40%, c'est-à-dire 8% par an. Et donc, effectivement, c'était extrêmement, extrêmement juteux. Mais il valait mieux arriver les premiers, quoi. Parce que, évidemment, si vous arrivez dans la deuxième ou dans la troisième fournée, les prix ont d'autant augmenté, puisqu'évidemment, au bout de 5 ans, ils ont pris 40%. Donc, quand vous revenez dans le fonds suivant, ça devient beaucoup moins intéressant. Et comme c'était un tout petit milieu et qu'il fonctionnait aussi en connaissant, bien entendu, les experts qui étaient à la fois des experts et des vendeurs, on l'accuse d'avoir fait le marché et d'avoir créé une bulle spéculative qui a fini par attirer quand même vraiment l'attention et puis qui en plus mettait très en colère des institutions comme la BNF, hein, puisqu'il raflait des manuscrits. Et donc il avait des fonds très très importants et on estime à je crois que de mémoire c'est 650 millions d'euros de pertes pour les épargnants puisqu'ensuite là tout a été fermé. Bon, moi je suis partie avant, je suis partie un ou deux ans avant que ça explose parce que ça a commencé déjà à devenir assez compliqué et qu'on n'arrivait pas à le convaincre de rentrer dans un marché normal, par exemple, de mise aux enchères, de vente aux enchères, qui aurait permis de convaincre effectivement qu'il n'y avait pas de spéculation, puisque les manuscrits auraient été achetés sur un marché normal. Bref, donc effectivement, ça a été mon dernier poste.
Le musée, il a fonctionné, parce que c'est quand même très pointu, le musée des lettres et des manuscrits.
Oui, il y avait...
Qu'est-ce qui faisait venir le public ?
Alors non, il n'y avait pas énormément de public, il faut être sincère quand même, c'était pas, il n'y avait pas des foules, sauf, bon, il y avait une exposition sur le Titanic, où là, ça avait quand même pas mal marché, évidemment, sans le sous-marin, mais j'ai vu qu'il y en avait une qui ouvrait là, en ce moment aussi, qui était... Non, il y avait tout un tas de lettres, d'échanges, il y avait effectivement des menus, il y avait pas mal de choses. La scénographie était toujours très, très bien faite. Il y avait des plans médias absolument colossaux avec des pubs télé, des achats. Oui. Et donc, quand je suis partie, c'est ce qui m'a permis, en fait, un peu de... Si, c'était une des premières. Hein. Ouais. Non, ce n'était pas une des premières, c'était en 2010. Effectivement, on avait... Mais ça, ce n'était pas un manuscrit qui faisait partie du fond, mais c'était le gardien du manuscrit, puisque le manuscrit sur la route est conservé par une espèce d'ermite absolument incroyable. Non, américain.
Avec une grande barbe.
Oui, absolument. Mais effectivement, il y a un petit air de ressemblance.
Il est là.
Incognito. Et donc, on avait hébergé le manuscrit de Sur la route et on avait fait un partenariat avec MK2 au moment de la sortie du film de Walter Salles qui avait été présenté à Cannes. Donc, on était allé à Cannes et tout ça. Enfin bon, c'était toute une aventure. Dans celle de Sur la route, c'était uniquement le manuscrit de Sur la route, mais qui a un long rouleau de 14 mètres de long, on avait fait faire une vitrine spéciale pour ça, et qui était déroulé entièrement. Puis après, il y avait tout un tas d'éditions originales du livre.
Qui est sur la route ? Et Kerouac et sa famille étaient d'où ? Sa famille était du Hellbrook ?
Mais je ne savais pas, enfin, je ne me souviens pas, parce que je l'ai forcément su à l'époque. Ah ouais.
Il est revenu ici.
Ouais. Satori.
Ouais. Voilà. Et donc voilà. Et ensuite, je suis partie à temps et j'ai fait à ce moment-là un bilan de compétences et d'où il est ressorti que ça serait pas mal que je fasse quelque chose d'un peu plus créatif. Hein. Et donc j'ai d'abord créer une société de plats sous vide. Je cuisinais et puis je livrais les gens avec mes plats. Mais évidemment, mon business plan n'était pas terrible vu que j'achetais tout à Monoprix. J'avais quand même une rentabilité qui n'était pas terrible. Et donc, au bout d'un an, j'ai laissé tomber cette petite société qui s'appelait Mangeons la Capucine. Je n'ai pas perdu d'argent, mais je n'en ai absolument pas gagné non plus. Et là, je me suis décidée. Non, j'ai gagné un prix organisé par Swatch et le magazine Photo pour une photo. Et le premier prix, c'était entre 3 et 6 mois. Alors, non, ouais, oui. Non, c'était des collages, en fait. Mais parce que j'avais fait des collages il y a 30 ans, à peu près. Et je suis retombée sur des petits morceaux de papier découpé à un moment. Je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai que je faisais des collages. Et j'ai repris. Et ça m'a complètement happée. Et je n'ai pas arrêté. Voilà. Et après, j'ai fait donc d'abord des collages. Puis maintenant, je fais d'autres choses, des encaustiques, donc, des photos, etc. Alors, ce prix, donc le premier prix, c'était entre 3 et 6 mois à Shanghai. Et je ne m'attendais pas du tout à gagner, évidemment. Et je me suis dit, oh, mais partir à Shanghai, je n'ai absolument rien, pas du tout envisagé ça, pas du tout prévu d'aller vivre dans ce pays. Et puis, bah, j'y suis allée. Et donc, du coup, j'ai un peu perdu aussi les tout derniers clients que j'avais en freelance, en communication. Et donc, ça a précipité un peu mon changement de vie, dont je me suis toujours vraiment réjouie. Je pense que ça a pris un long détour, un temps assez, même si j'en ai toujours plus ou moins un peu fait. Mais, et voilà, donc c'est évidemment un changement de vie total, parce que j'ai absolument plus le même niveau de vie que quand j'étais au musée des lettres et manuscrits. Mais c'est un... L'intensité que j'avais, de la joie que j'avais ressentie quand je faisais mes études en classe préparatoire, je l'ai vraiment retrouvée après. Donc c'est là que la rencontre, pour retomber sur ton titre, puisque pour l'instant je ne l'ai pas du tout traité, mais la rencontre entre les grandes écoles et l'art, elle peut se faire là aussi, c'est dans la liberté.